Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la conférence que va nous présenter Hélène Giannichini sur Amplifier l'existence, la photobiographie en France des années 1980 à nos jours. Donc, Hélène Giannichini est écrivaine, critique. Elle a travaillé en littérature sur le rapport texte-image. Le titre le laisse bien entendre. Et elle travaille, elle enseigne, pardon, à l'École européenne supérieure de l'image à Poitiers-Angoulême. Et elle nous fait le plaisir d'être là ce soir. Je signale parmi les publications qu'elle a travaillé sur quelqu'un dont elle va parler dans sa conférence, qui s'appelle Alix Cléo-Roubaud, une photographe qui a laissé à la fois des photos et du texte, justement, et dont elle s'est occupée de la collection. Dans un beau catalogue dont on a la chance d'avoir avec La Belle Aventure, merci Christine Drugman pour ta présence, la primeur de cette édition, enfin de la disponibilité du catalogue à un prix défiant toute concurrence, voilà, qui est celui de l'exposition donnée à la Bibliothèque nationale de France. Et dernièrement, qui vient de sortir en février, un livre qui est issu d'une résidence à la Villa Médicis, et voir de ses propres yeux. Et là, on est sur une autre thématique anatomique. Et voilà, que je vous laisse découvrir. Donc, il y a une belle table dans laquelle vous trouverez notamment des écrits de Denis Roche, qui est aussi un photographe et écrivain. Et justement, en relation avec le titre, le sujet de cette conférence, vous savez, il m'arrive de temps en temps d'avoir le temps de trouver une citation pour introduire les conférences. Et donc là, j'en ai trouvé une qui me semble très belle sur le rapport à la fois à la temporalité dans l'écrit et la photographie, et le chemin vers la photographie. Donc là, c'est une citation de Denis Roche qui date de 1994. Je vous la lis. Dans la littérature, le temps est intense, mais il ne marche jamais à la fraction de seconde. Il n'est jamais brutal. Il est toujours tendu, alangui, un peu, même intense, mais sur un long moment, à l'intérieur duquel on vadrouille un peu, voilà. Tandis que là, moi je vadrouille avant l'image, très longtemps, des semaines, des mois, et puis le temps se réduit. J'arrive au moment où j'ai prévu de faire la photo, et tout d'un coup, je suis devant la chose à photographier, et je fais la photo. Et donc, tout se réduit avec une brutalité. Je disais lyrisme, et c'est la même chose. Tout se résout, tout est terminé, et après, on est au-delà, en une fraction de seconde. Et je trouve ça tout à fait bouleversant. On peut comme ça jalonner son existence d'une multitude de moments, d'une intensité incroyable. C'est absolument formidable. Donc, un bon goût, une bonne présentation de cette conférence qui s'annonce intense, et je laisse la parole à mon binôme sur ce cycle de conférences, Anne-Cécile Guilbard.
Merci Héloïse. Juste un mot pour vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence. Vous l'entendez, la plus littéraire du cycle de cette année, nous nous en réjouissons. Puisqu'en effet sur la table sont présents les must-have, les incontournables des rapports entre littérature et photographie, et le grand plaisir d'accueillir ce soir Hélène Giannichini est lié au fait qu'elle est pionnière de la découverte parmi ces incontournables de la photographe et écrivaine Alix Cléo-Roubaud, et qu'elle connaît bien ces rapports entre littérature et photographie. Donc je la remercie beaucoup de venir ce soir, après être venue à 14h dans notre équipe de recherche, nous parler d'autres manières des rapports entre littérature et photo. Donc merci beaucoup d'assurer ces deux interventions pour nous. Merci encore.
Merci à vous pour l'invitation. Quand on m'a proposé de faire une conférence ici, j'ai tout de suite dit que je voulais parler de photobiographie. C'est un sujet auquel je m'intéresse depuis plusieurs années. J'ai un peu écrit dessus, mais j'ai encore jamais eu l'occasion de faire une conférence sur ce sujet. J'avais initié des recherches au moment de la Biennale photographique de Mulhouse sur ce thème. Alors la photobiographie, c'est un terme qui est, de prime abord, tout le monde comprend. C'est une contraction de, alors au choix, photographie et biographie, ou évidemment à cause des sonorités de photographie et d'autobiographie. Donc le sujet de cette conférence a l'air de prime abord transparent. Je vais parler de celles et ceux qui racontent leur vie par l'image. Et vous pourriez me dire que c'est un sujet bien trop vaste ou imprécis, puisque avec la masse des selfies, des photos de vacances et autres qui ne cessent de croître, nous sommes en fait dans une ère de la photobiographie généralisée. Nous sommes tous devenus des photobiographes. On n'a qu'à regarder nos téléphones ou nos ordinateurs pour en être persuadés. C'est-à-dire que nous avons tous, ou à peu près, une pratique de la photographie, mais on continue de s'en méfier. On aime s'y adonner, mais on la trouve facile. On dit souvent et on entend souvent qu'elle nourrit l'obsession contemporaine de la mise en scène de soi, qu'elle redouble le réel, qui a besoin de voir deux fois le monde. On la pratique, mais on la tient à distance. Ça, c'est quelque chose qui me frappe, parce que cette mise à distance de la photographie, en fait, elle dure depuis longtemps. Depuis Baudelaire au moins, et j'en parlais un peu cet après-midi, qui a écrit un texte très fameux quand on s'intéresse au rapport entre texte et image, qui est le Salon de 1859, qui est un texte à charge contre la photographie, où il écrit, notamment, je vais pas citer le texte en entier, mais il y a une phrase qui est très célèbre, il dit « Et la foule se précipita comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal ». Et c'est encore ce type de reproches qu'on entend aujourd'hui qui sont faits à la photographie, aux selfies, que ça nourrit cette chose du narcissisme, selfie, snapshot, etc. Donc quand je parle de photobiographie, on pourrait s'en méfier. Donc c'est pas vraiment un sujet, on pourrait dire d'abord, où mon début est assez négatif finalement pour cette conférence, puisque tout est de la photobiographie et rien n'en est vraiment. Parce qu'on renoue aussi avec cette vieille peur du narcissisme en photographie. Alors, il faut que je clarifie ma position. Moi, je crois que savoir si la photographie nous rend narcissique ou non est une fausse question. Elle ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser sur cet inchangé. C'est quand même bizarre de reprocher la même chose à l'image presque 159 ans plus maintenant, après un illustre poète. Peut-être qu'il faudrait qu'on change des choses dans notre conception de ce médium. Et plutôt que de trancher sur cette question, il faudrait se demander, je crois, pourquoi la photographie, plus qu'un autre art, est à même de prendre en charge le récit d'une vie. Puisqu'on parle de photobiographie, on n'a pas d'équivalent en peinture ou avec d'autres arts. Parce que d'abord, la photographie est une trace qui manifeste une connexion fondamentale constitutive au réel. C'est un fragment du réel, mais aussi une affirmation, une façon de dire « j'étais ici à ce moment-là ». C'est donc, beaucoup l'ont écrit, un marqueur biographique exceptionnel. Rien mieux que la photographie ne peut rendre compte d'une vie. Elle est mémoire de l'auteur, elle est trace d'un vécu individuel et c'est un outil parfait justement pour faire sa biographie ou son autobiographie. Vous le voyez derrière moi, j'ai appelé cette conférence, j'ai utilisé le terme d'amplifier l'existence. Alors amplifier, c'est rendre plus intense parce que la photographie nous permet de voir, de nous saisir d'un moment là où d'ordinaire nous ne faisons que passer. On pourrait croire que la photographie, c'est une manière de s'emparer du temps, de s'approprier les grands ou les petits événements de nos vies, de se les donner à voir. Peut-être que, par exemple, l'amour existe d'autant plus qu'il est photographié. Vous avez derrière vous une image d'Alix Cléo-Roubaud qui pose au lit avec son époux, le poète français Jacques Roubaud. Ils sont en train de lire les carnets du grand-père de Jacques Roubaud. Et c'est une artiste, une grande photobiographe, Alix Cléo-Roubaud, qui a fait un certain nombre d'images de ce type, qui documente des moments de sa vie intime et conjugale. Le sujet de cette conférence, la question que je vais essayer de me poser avec vous, c'est de se demander d'abord qu'est-ce que c'est que la photobiographie, puisqu'on a dit que c'était un peu tout, un peu rien, qu'on comprend le mot d'emblée. En réalité, c'est un terme qui a une histoire. Et ensuite, j'aimerais aussi me demander si elle fournit une catégorie opérante pour comprendre une partie de l'histoire de la photographie, notamment de la photographie contemporaine. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer, vous exposer l'histoire et la définition de ce terme-là. J'aimerais ensuite vous montrer différents types de photobiographies, Et ensuite, j'aimerais ouvrir vers quelques pratiques contemporaines, parce que si c'est un terme qui a été forgé dans les années 1980, en réalité, un certain nombre de photographes, on a des exemples sur la table là-bas, il y a des livres d'Amaury d'Acunha et d'Anne-Lise Bourraillet, par exemple, qui sont des photographes tout à fait contemporains, pratiquent aujourd'hui la photobiographie. Alors, la photobiographie, c'est plus qu'un terme, c'est une notion, va-t-on dire, qui est introduite en 1983 par l'historien de la photographie et le critique Gilles Mora dans un texte qui s'intitule « L'été dernier, manifeste autobiographique ». C'est un texte, je vous mets des extraits derrière moi, c'est un texte qui a l'ampleur des manifestes. Il a une écriture ample qui saisit le lecteur, il écrit à la première personne du pluriel, on a ce « nous ». Qui inclut le lecteur dans le texte. Alors, je vous lis cet extrait. « La photographie redoublera notre vie. Témoin biographique par excellence, nous la ferons rebondir de toutes nos forces au cœur de notre projet autobiographique jusqu'à ne plus savoir s'il convient de vivre pour photographier ou l'inverse. » Donc, dans ce texte, Gilles Mora semble établir une communauté avec le lecteur, avec nous, nous ce soir. Ce qui l'intéresse dans ce texte, et ça c'est très important, c'est l'expérience qui est vécue par l'opérateur, c'est-à-dire par le photographe, celui qui fait la photographie, et il replace d'emblée le geste photographique dans une perspective biographique. La photographie, elle redouble notre vie. Mais elle fait aussi partie d'un ensemble plus vaste qu'elle. Il le dira ensuite, Gilles Mora, elle est au cœur d'un projet, la photographie, elle n'est pas le projet en soi. Je vous ai mis un autre extrait. À la question paralysante que se posent beaucoup d'entre nous, que photographier, nous répondons simplement notre vie. Les crêtes qui peuvent trancher sur l'horizon plat de l'existence. Le photographe est un surfeur sur les crêtes de son existence. James Joyce, appelait ça des épiphanies. La vie, et donc la photographie, ce sera des coups d'épiphanie. Ces accélérations du présent où s'engouffrent et se résolvent nos attentes, notre passé, nos nostalgies et nos désirs. L'idée de Gilles Mora, c'est d'utiliser la puissance biographique de l'image, son authenticité existentielle, dit-il, pour en la combinant à du récit, former une esthétique neuve. Et ça, c'est très important. La photobiographie, c'est jamais la photographie toute seule pour Gilles Mora, et ça va le suivre ensuite. C'est toujours la rencontre de la photographie et du texte. Pour lui, la photographie n'est pas seulement une preuve, mais un amplificateur d'existence. Donc vous comprenez où est-ce que j'ai volé l'idée de mon titre. Elle permet de saisir l'ampleur de ce que nous vivons, d'être en prise avec notre présent. Ça veut dire qu'un photographe ne fait pas que consigner une existence, il la révèle. Il se la révèle à lui-même et il la révèle aussi à celles et ceux avec qui il la vit. Il y a le terme très beau d'épiphanie dans ce texte qui va être assez important. J'aimerais m'arrêter dessus quelques instants parce que le terme en lui-même est assez passionnant pour le sujet qui nous occupe. Épiphanie, c'est ce qui apparaît, ce qui se manifeste. Ça veut dire faire voir, si on s'arrête un peu sur l'étymologie du terme. L'adjectif en grec, épiphanès, signifie lumineux, apparu, qui est en pleine lumière. Et donc on n'est pas très loin d'un champ lexical qui serait celui de la photographie, puisque la photographie, elle aussi, est lumineuse, apparaît ou se fait en pleine lumière. Il y a une dimension éminemment photographique dans ce terme, puisque la photo, et je le rappelle, mais c'est toujours du bien de le rappeler, écriture de la lumière. Et là, c'est une clarté qui est dotée d'une force particulière, comme un moment saillant de l'existence. C'est ça que la photographie va arrêter. Une personne qui nous apparaît avec force, un moment où au coin d'une rue, la lumière nous fait surgir la beauté d'un arbre ou d'un immeuble. Donc ces gens que l'on remarque, ce sont ça, les épiphanies. Pour être plus précise encore, épiphanie est composée d'épi, une préposition qui signifie sur, à la surface, et du verbe phainein qui signifie briller, apparaître, se montrer. Or, qu'est-ce que c'est qu'une image photographique, si ce n'est faire advenir sur la surface, justement, mais la surface sensible, la lumière, cette fois physique, captée par l'appareil, mais peut-être aussi une autre lumière, plus symbolique cette fois, qui ferait briller un moment de notre existence avec une force singulière. C'est bien de ça dont il s'agit. Gilles Morat le dit, il emprunte le terme à Joyce, à l'écrivain James Joyce, pour qui les épiphanies, je le cite, ce sont les instants les plus délicats et les plus fugitifs. Il écrit ça dans son roman autobiographique Stephen le héros, qui est paru en 1944. Et les épiphanies, justement, sont une des sources de l'écriture de Joyce. Pour lui, l'épiphanisation consiste à saisir ces moments saillants de l'existence à l'écrit. On pourrait donc reprendre cette idée de Joyce et penser que l'épiphanisation pourrait être la création d'une image, le moment où l'on appuie sur le déclencheur, c'est-à-dire qu'on saisit cette chose qui surgit dans nos vies, un visage, une lumière, une ombre portée, qu'on peut le saisir aussi bien à l'écrit que par l'image. C'est le moment, donc une épiphanie, où l'objet lui-même se présente à nous. Elle est du registre du réel. C'est du sens qui arrive dans le réel. Ce texte de Gilles Morat, dont je vous lis les extraits, le manifeste photobiographique, apparaît à un moment précis de l'histoire de la photographie en France, c'est-à-dire dans les années 1980, au début de son institutionnalisation. C'est un moment où on s'intéresse enfin à la photographie, où on crée les premières écoles d'art dédiées à la photographie, les premiers musées, les premières galeries. Et c'est un moment aussi en France où on essaye de théoriser ce qui se passe avec l'image. La photobiographie emprunte à la littérature, aux catégories littéraires. Elle reprend déjà à son compte la définition en littérature de l'autobiographie, ou ce qu'on a appelé le pacte autobiographique, hein, ce que Philippe Lejeune a appelé le pacte autobiographique, c'est-à-dire raconter des faits qui se sont vraiment passés, donc un rapport où l'auteur promet de dire la vérité. Ensuite, il promet aussi que l'auteur, le narrateur et le personnage ne font qu'un, que la personne qui est photographiée, et donc si on déplace ça, ça voudrait dire que l'opérateur et la personne que l'on voit sur l'image sont les mêmes. Le pacte autobiographique est en partie assuré par la photographie et l'autoportrait, puisqu'il y a une coïncidence entre l'opérateur technique et l'auteur de l'image. L'image est a priori, dans le cas d'un autoportrait, bon, je dis bien a priori, vraie, puisqu'elle enregistre un morceau du monde, une bribe du réel. Donc ça coïnciderait avec ce pacte. Mais le problème que vont rencontrer celles et ceux qui veulent devenir photobiographes, c'est qu'ils se confrontent très vite au caractère résolument fragmentaire de l'image photographique. C'est un des premiers obstacles qu'ils doivent surmonter, c'est comment est-ce qu'on va raconter une histoire, raconter sa vie, en l'occurrence, si on n'a que des fragments. Comment est-ce qu'on peut faire pour les coller ensemble, pour imaginer faire les prémices d'un récit. Et c'est pour ça que les photobiographes vont avoir besoin de trouver un certain nombre de solutions, travailler en série, par exemple, mais aussi avoir recours à du texte. Parce que sinon, on est dans l'album photographique, on est dans la photographie de famille ou l'album photo qu'on va faire avec les images de nous. Et l'album photo, ça n'a pas une portée suffisante. C'est plutôt une chronologie, il n'y a pas vraiment d'histoire qui est racontée avec un album photographique. Il y a un constat d'une forme d'impuissance de l'image, impuissance de l'image au discours. C'est impossible de faire son autobiographie par la seule image. Si on en croit Gilles Morat, encore une fois. Je vous montre derrière moi une courte séquence d'Alix Cléo-Roubaud. On voit qu'elle essaye, elle, de rendre compte d'une certaine durée. Donc on n'est pas encore dans la jonction d'un texte, mais une seule photo ne suffirait pas pour raconter ses heures du soir ou rentrer chez elle. Elle ne sait que faire, lit un peu et puis fait autre chose, et ces moments un peu d'attente et d'intimité. Pour faire ça, Alix Cléo-Roubaud produit une série, une courte série. Elle choisit aussi de travailler avec la surimpression pour se dédoubler, ce qui donne cette impression qu'elle tourne un peu en rond chez elle, qu'elle ne sait pas comment rester sur son canapé. Il y a une dimension d'attente dans cette série qui est très forte. Ça veut dire, quand on regarde ça, bon, je vous l'ai décrit rapidement, qu'on assiste un peu à ces trépignements, à ces déplacements. Ça veut dire qu'il faut tricher un peu avec le réel pour rendre compte de sa vie intérieure. si elle avait fait une photographie où c'était juste elle assise sur son canapé, on n'aurait pas cette idée, cette sensation d'attente, de trépignement. Il faut tricher, il faut truquer. Et c'est ce que vont faire un certain nombre de photobiographes. Mais pour Alix Leroubeau, elle le dira, ça ne suffit pas. Finalement, même la séquence ne suffit pas, il va falloir très rapidement rajouter du texte. Elle a une pratique de la surimpression, elle photographie ses textes et elle les met sur une même image. Il faut qu'elle ajoute quelque chose à ses séquences pour qu'elle puisse vraiment raconter ce qu'elle veut dire. Et dans cette photographie que vous voyez, ah mais les légendes sont coupées, donc vous voyez pas mes légendes, mais donc c'est une photographie de la série La Dernière Chambre qui a été réalisée, enfin la prise de vue date de 1973 et le tirage date de 1979, donc la toute fin des années 70. C'est la dernière chambre qu'elle avait chez ses parents au Canada avant de partir. Et elle a écrit un texte ensuite où elle raconte en partie, pas que, en s'adressant à quelqu'un, sa solitude quand elle arrive à Paris et la détresse parfois dans laquelle elle est. Et en fait, elle photographie, elle tape à la machine, elle photographie son texte et dans la chambre noire, elle les superpose. Ce qui est assez beau avec la photobiographie, c'est que c'est un moment de grande inventivité. Puisqu'il faut faire du texte et de l'image ensemble, et bien il faut trouver des moyens de le faire ensemble. Donc là, on a une surimpression. C'est aussi un moment où, d'un point de vue éditorial, on va avoir de belles inventions et de belles trouvailles. Vous voyez derrière moi la couverture de la première édition de Suzanne et Louise, le roman photo de l'écrivain et photographe Hervé Guibert. Je vous ai mis quelques images des pages à l'intérieur où en fait il photographie ses deux grandes tantes en y ajoutant un récit à la fois des moments des prises de vue et des relations qu'il entretient avec ces deux femmes, mais aussi de réflexions plus théoriques sur ce qu'est l'image. C'est un très bel objet qui vient d'être réédité, il me semble, cette année, où on a l'écriture manuscrite de Guibert. Ce qui est aussi très beau parce que c'est toujours très émouvant d'avoir accès à la matérialité de l'écriture des auteurs qu'on aime et qu'on lit. Bon, sur Guibert, il y aurait beaucoup à dire. Je ne vais pas pouvoir faire toute une conférence sur lui. Peut-être Anne-Cécile pourra le faire ensuite. Mais je voulais vous donner aussi cet exemple sur la photo. Donc c'est, là, j'ai zoomé sur un moment du roman photo. Je crois que ce sont d'autres choses que des objectifs qui font les bonnes photos, des choses immatérielles, de l'ordre, de l'amour ou de l'âme, des forces qui passent là et qui s'inscrivent, funestes comme le texte qui se fait malgré soi, dicté par une voix supérieure. Donc ce qui est assez beau, c'est cette dimension dans un dispositif photo-littéraire. Hervé Guibert produit une réflexion sur ce qu'est la photo-littérature. Il y a un enchâssement, il réfléchit à la nécessité d'adjoindre le texte à l'image. Hervé Guibert, comme d'autres, va trouver plusieurs solutions pour mêler texte et image. Là, je vous ai montré un livre, mais on a aussi un certain nombre d'autoportraits où il va écrire sur les tirages, autoportraits de lieux et de dates totalement oubliés. Hervé Guibert, 1990, et ses légendes, enfin, on est au-delà de la légende, on est déjà dans du texte, et un peu comme celle que je vous ai montrée d'Alix Leroubeau, on a un certain nombre de tentatives à ce moment-là, on écrit sur les images, à la main, on va superposer les choses, comment est-ce qu'on fait pour se raconter et pour mêler les deux. Alors, on fait des livres, on fait des expositions, donc c'est un moment de grande vitalité dans l'histoire de la photographie. Évidemment, puisqu'on parle d'autobiographie, ces années 80 sont aussi celles de l'autoportrait en photographie. Certains disent même, c'est une critique qu'on peut entendre un peu à charge contre ces années 80, que c'est des années vraiment où on se photographie beaucoup, quoi. Et presque un peu trop. Et que cette omniprésence de l'autoportrait est un peu fatigante. Bon, moi je trouve que c'est pas vraiment un argument, c'est un argument un peu léger, disons, parce que l'autoportrait en photographie, c'est un geste qui est très ancien. Je vous avais derrière moi... Ah, il y a un bout de ma légende, là. Vous avez derrière moi l'autoportrait en noyer d'Hippolyte Bayard, qui est considéré comme l'un des premiers autoportraits de l'histoire de la photographie, qui date de 1840. Je vous ai mis une version recontrastée, je le précise, c'est toujours bien de le savoir, la photo est presque invisible maintenant parce que les procédés Bayard, ça jaunit extrêmement vite, donc on voit presque plus rien. Donc là, la Bibliothèque nationale de France recontraste les images pour que vous puissiez la voir. Et c'est assez intéressant parce que cette photographie, déjà, elle est mêlée à du texte. Donc déjà, dans l'exercice de l'autoportrait, on va raconter quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte Bayard ? C'est assez drôle et assez triste en même temps. On est au tout début de la photographie, quelques années à peine après son invention. Et en fait, il a été coiffé au poteau par Daguerre, qui a déposé son invention du daguerréotype à l'Académie des sciences. Donc il est vraiment triste, Hippolyte Bayard. Et il se plaint dans ce texte. En tout cas, il dit ça, que lui aussi a inventé un procédé photographique. Et pour nous donner quelque chose de son désespoir, il se représente en noyé. Et il fait ça vraiment sérieusement, hein, parce qu'il dit même qu'il joue au moment de tirer l'image, il noircit ses mains pour reproduire le pourrissement du corps du noyé. Si vous voyez, les mains sont assez noires, donc c'est vrai que c'est... Ça a l'air, enfin, voilà, il a l'air vraiment affecté par cette histoire d'invention de la photographie. Et ce qui est beau avec cette image, c'est qu'à la fois, on a, je ne sais pas, comme une préhistoire de la photobiographie en 1840, mais aussi l'introduction tout de suite de la fiction, puisque Bayard se photographie mort. Or, quand on est mort, normalement, c'est difficile de faire un autoportrait. Ensuite, pourquoi est-ce que cette charge contre l'autoportrait, moi je vous explique un peu pourquoi j'ai envie de la balayer d'un revers de main, parce que je crois qu'il ne s'agit pas vraiment de compter le nombre d'autoportraits, mais de comprendre les spécificités de la représentation de soi dans les années 80. C'est plus intéressant de se demander comment est-ce qu'on se photographie à ce moment-là, plutôt que pourquoi est-ce qu'on se photographie à ce moment-là. Et on a de très nombreux cas où la photographie de soi est accompagnée d'un travail d'écriture. Hervé Guibert, je vous l'ai montré, qui va aller assez loin, Sophie Calle aussi, dont je vous montrerai des choses ensuite. Et ce qui me semble caractériser quand même le travail autobiographique dans ces années-là, c'est une forme de jusqu'au boutisme, en tout cas, une façon de pousser au plus loin l'exercice de l'autoportrait. Et ce faisant, c'est aussi une manière de penser ce genre en touchant à ses limites. On parvient à une définition. Et je vais vous montrer un court extrait de La pudeur ou l'impudeur, qui est le film qu'Hervé Guibert fait à la fin de sa vie. Hervé Guibert, donc, c'est un photographe et un écrivain, je le dis rapidement, qui est mort du sida et qui a une œuvre autobiographique et qui a documenté la fin de son existence. Donc, c'est un jeune homme qui agonise et qui raconte son agonie là et sa mort due à la maladie du sida. C'est quelqu'un qui a été très important en France parce que le sida était, au moment où il tourne La pudeur ou l'impudeur et aussi où il sort un certain nombre de ses livres, on ne parlait pas du sida, on ne disait pas que les gens mouraient du sida. Quand Foucault est mort, on n'a pas vraiment dit qu'il était mort du sida, on a caché ça. Et donc c'est une œuvre très importante, celle de Guibert, pour l'histoire des luttes homosexuelles notamment, parce que c'est une œuvre qui dit et qui montre cette mort par le sida. Donc c'est un extrait très court, mais que vous puissiez aussi entendre sa voix. On n'est plus dans l'image, mais on est dans le film, et on est vraiment dans une forme de photobiographie ou de filmobiographie.
Le processus de détérioration amorcé dans mon sang par le sida se poursuit de jour en jour. Bien avant la certitude de ma maladie, sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience. Il me fallait vivre désormais avec ce sang dénudé et exposé, à toute heure, dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ?
Donc c'est un film documentaire qui est sorti à titre posthume, je ne vous l'ai pas précisé. Bouleversant, hein, je le répète. Et je ne sais pas s'il existe un DVD de ça. Moi, j'ai un DVD. Je ne sais pas si c'est facilement trouvable, mais je vous invite à regarder ce film. Vous remarquez que les images forment... on est dans une forme de journal intime par la vidéo. Que ces images sont accompagnées par une voix off qui est absolument, et on l'entend, hein, même dans ce court extrait, écrite. Elle est tissée d'extraits de ses propres ouvrages, d'autres choses qu'il a écrites. On est donc dans une voix off qui est littéraire. C'est très important parce qu'il a écrit ce film. C'est là où je dis qu'il y a encore photobiographie, même si l'image bouge. Mais c'est aussi un film où, je crois, à d'infimes endroits, Guibert introduit une forme de fiction, une forme d'autofiction, on pourrait dire. On a des faux manuscrits qui sont laissés sur les tables. Le récit, parfois, s'autorise aussi quelques incises. Et ça veut dire que dans ce film, comme dans le reste de son œuvre, Guibert interroge la nécessité d'avoir une part de fiction dans tout récit de soi. Que pour bien se dire, peut-être, que parfois, il faut un peu raconter des histoires et pas entièrement coller à la vie vécue, disons. Là, je suis dans ce second moment où je vous fais un peu une typologie, hein, de la photobiographie, les formes qu'elle a pu prendre. Donc, on a vu Guibert. Évidemment, il faut que je vous parle de Sophie Kahl. Là, je vous montre un autoportrait, mais ce qui m'intéresse, ce sont les dispositifs aussi exposés, photobiographiques, parce que la photobiographie, elle n'est pas que dans des livres. Donc, vous n'avez à nouveau pas la légende. Je vous montre la filature, qui est un diptyque composé de textes et de photographies qui date de 1981. Et cette version-là appartient à la galerie Perrotin. Ça fait 1,60 m sur 1,10 m. Donc c'est vraiment une pièce assez importante aussi pour se le représenter. C'est une pièce photobiographique qui est extrêmement impressionnante. Quand on est face à ça, on est un peu submergé, disons. Donc cette pièce, c'est en même temps qu'elle tient un journal photographique et littéraire, Sophie Kahl, l'artiste Sophie Kahl, qu'on voit, qui est donc elle, hein, a demandé à un détective privé de la suivre et de noter exactement ce qu'elle faisait de ses journées. Ce qu'elle fait dans cette œuvre, c'est qu'elle pose la question de la vérité ou de l'objectivité. Donc elle interroge cette forme de l'autobiographie avec du texte et des photos qu'elle fait, des textes qu'elle écrit, des textes qui sont dus au détective. Elle pose la question de la vérité, de l'objectivité. Qui est-ce qui parvient le mieux à la dire ? Elle ? Ou cet autre qui la suit. Donc c'est aussi passionnant. C'est un moment où je vous le disais, hein, la photobiographie va essayer de penser et de se confronter à ses limites. Ensuite, une dernière dont j'ai déjà parlé, c'est Alix Cléroubot. Évidemment, je vous ai montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la conférence, une photographie où elle est au lit avec son époux, le poète Jacques Roubaud. Je vous ai ensuite montré une courte séquence où elle trépigne en se dédoublant sur son canapé. Et maintenant, je voudrais vous montrer cette image qui, je pense, est de la photobiographie, parce qu'elle a écrit sur cette image dans son journal intime, longuement, et que cette photographie est un autoportrait. Elle s'appelle 15 minutes la nuit au rythme de la respiration. Elle date de 1980-81. C'est une photographie argentique qui est conservée au centre Georges Pompidou. Pourquoi est-ce que c'est un autoportrait ? Alors, il faut savoir qu'Alix Cléroubot était très asthmatique depuis l'enfance. Elle souffrait d'asthme de manière extrêmement grave. Enfin, ça a handicapé sa vie, toute sa vie. Alix Cléroubot, c'est une artiste qui est morte très jeune, à 31 ans, en 1983. Et au moment de la prise de vue de cette photographie, elle est en vacances avec son époux, le poète Jacques Roubaud. Elle a une crise d'asthme. Ils sont dans le sud-ouest de la France, près de Carcassonne. C'est la nuit. Et elle décide de sortir de la maison, elle se met nue, elle se couche dans l'allée qui mène à la maison, face à elle une allée de cyprès, elle pose l'appareil photographique sur sa poitrine qui est secouée par ce souffle inégal qui est dû aux crises d'asthme, elle laisse l'obturateur ouvert pendant 15 minutes et elle prend cette image de cyprès qui sont transformées par sa respiration et par le souffle. C'est pour ça que je dis que c'est un autoportrait, c'est parce que on a le souffle d'Alix Cléroubot dans cette image. C'est pour ça aussi qu'elle est extrêmement émouvante, parce que c'est rare de pouvoir, dans une image, voir les gens respirer. Or, là, c'est le cas. Et pourquoi est-ce qu'on considère que l'autoportrait, c'est forcément une représentation de notre visage ? On pourrait aussi faire un autoportrait par le souffle, c'est le cas, c'est ce qu'elle fait. Cette photographie date de 81, donc vous voyez quand même en 80, ça s'agite, quoi, cette question photobiographique. Donc c'est pas un hasard si une publication extrêmement importante, qui sont les Cahiers de la photographie, publie en 1984 un numéro qui s'intitule La photobiographie, où, dans lequel il tente d'élaborer un certain nombre de propositions théoriques à propos de ce qu'il présente à raison comme un nouveau courant de l'histoire de la photographie. C'est-à-dire que bon, les historiens se disent, bon, il se passe quelque chose, là, il va falloir qu'on conceptualise un peu tout ça. L'édito est de Jean-Claude Lemany, donc, qui est un des grands conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, qui est quelqu'un de très important pour l'histoire de la photographie en France, parce qu'il a fait parmi les plus belles acquisitions, il est allé rencontrer des photographes, il a acheté pour la BNF des photographes qui n'étaient pas du tout reconnus, il a vraiment fait un travail de fond quoi, pour l'histoire de la photographie en France, tout en publiant des textes aussi très importants. Il a fondé le département de photographie à la Bibliothèque nationale de France. Et il dit, je le cite, « Dans mes rencontres avec des jeunes photographes depuis des années, je suis de plus en plus frappée de voir à quel point leur œuvre est mêlée à leur vie. » Il écrit ça dans la préface de ce numéro. Numéro dans lequel on retrouve, vous le voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, si vous devez un peu arriver à lire, on retrouve des gens dont j'ai parlé, Alix Clérubeau, Sophie Kahl, mais aussi des photographes très importants comme Bernard Plossu, que vous connaissez peut-être. Ce numéro des Cahiers de la photographie, du coup j'ai tout le temps envie de dire photobiographie, appelle un double constat. D'abord, premier constat, il triche un peu. Il faut bien le dire, maintenant avec le recul. C'est-à-dire que tous les artistes qui figurent dans ces pages n'ont pas forcément fait de la photobiographie au sens strict du terme. Ils ont tous donné pour le numéro des photos et des textes, mais si on a certains dispositifs pour lesquels texte et images sont intrinsèquement liés, on en a d'autres pour lesquels ça a été orchestré de manière beaucoup plus artificielle. Ils ont par exemple demandé à Plossu, qui donne cette image, dont vous ne voyez pas la légende, qui s'appelle Égypte 1977. Donc une photographie qui existe séparément, qui est montrée dans plein d'expositions séparément, seule et sans texte. Ils ont demandé à Plossu d'écrire un texte à partir de cette image. Texte dans lequel il réfléchit à l'autobiographie. Être pour ou contre l'autobiographie est un faux problème. Comment nier qu'une image, juste par le fait qu'on l'a prise, est une réalité, une sorte d'autoportrait mental, tout simplement, écrit-il. C'est assez drôle d'ailleurs ce texte et cette image de Plossu, parce qu'il semble tout de suite saper le sujet même du numéro. Quoi. On l'invite à parler dans un numéro sur la photobiographie, et en gros il écrit « bon bah tout est un peu de la photobiographie ». Il dit oui, toute photo est autobiographique, un peu comme la fameuse phrase qu'on cite beaucoup et qui est attribuée à Flaubert, le fameux Madame Bovary, c'est moi. C'est un peu ça qu'il dit pour la photographie. Si toute photographie est autobiographique, ça remet un peu en cause la légitimité du mouvement hein, qu'ils sont en train d'essayer de penser. Mais il semble aussi, quand on lit ce texte, que Plossu se fait le porte-parole de querelles qui ont agité toute la rédaction des Cahiers de la photographie. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'autobiographie liée à la photographie. Et c'est vrai que c'est un numéro qui est... Bon, tous les Cahiers de la photographie, c'est passionnant, mais on voit vraiment des gens qui sont en train de penser. Et c'est pour ça que cette revue, c'est aussi, ouais, assez précieuse et passionnante à lire. Dans l'édito que je citais plus tôt, Lemany, donc toujours le même, témoigne de ces tensions. Il explique que le numéro a pour but, je le cite, de distinguer ce qui est vraiment photobiographique de ce qui ne l'est pas. Il poursuit en disant « Or, dès ce moment, s'est révélée entre nous une division comme jamais jusqu'ici nous n'en avions ressenti. Certains, sensibles aux limites propres de la photo, son instantanéité, son impuissance au discours, déclarent l'autobiographie photographique impossible, sans l'accompagnement de la parole écrite ou parlée. D'autres, plus sensibles à la nature formelle de la photographie, rejettent toute compromission avec un langage autre que le sien propre et craignent que l'autobiographie ne vienne diluer les problèmes plastiques dans la littérature. » Ces phrases mettent en lumière, que je viens de vous lire, ah, je vous les avais mises là, si vous voulez les lire d'ailleurs, pardon, encore mieux. Ces phrases, elles mettent en lumière ce qui est à mon avis l'une des questions fondamentale posée par la photobiographie, à savoir celle du rapport entre le texte et l'image. L'image, est-ce qu'elle a besoin, l'image, de l'écrit pour prendre en charge le récit d'une vie, ou est-ce qu'elle peut l'assumer seule ? Autrement dit, se montrer est-il suffisant pour se dire ? Et c'est ça qu'ils interrogent dans ce numéro. Se montrer est-il suffisant pour se dire ? Voilà, qu'est-ce qu'Alice Leroubeau nous dit d'elle là-dedans ? Selon Gilles Mora, toujours, qui est très important pour cette conférence, la réponse à cette question ne peut pas être un oui unanime. On ne peut pas dire oui, ça suffit de se montrer pour se dire. Si la photographie est un indicateur biographique essentiel, elle doit malgré tout s'accompagner d'un texte. Mora fait le constat d'une relative impuissance de la photographie à assumer pleinement le récit d'une vie, et il impute cela aux, je le cite, « limites des moyens que le dispositif offre au photographe pour parler de lui », possibilité que seule la langue, par sa complexité, autorise. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour, dans l'image, donner à voir l'ambivalence de nos sentiments, l'hésitation ? Pour Mora, on a besoin de l'écrire. L'image, qui littéralement ne parle pas, ne peut pas se passer du texte, de ses nuances, de son articulation. C'est Mora, hein, toujours. Toute photobiographie nécessite donc, selon lui, un dispositif photolittéraire. Alors, j'aimerais à nouveau qu'on voit trois exemples d'artistes et d'auteurs qui développent chacun trois dispositifs photolittéraires différents, profondément autobiographiques. Et j'aimerais qu'on voit ensemble en quoi ils dérogent parfois à la stricte définition posée par Gilles Mora, et ce qui nous invite nous aussi à penser de manière plus théorique cette question de la photobiographie. Alors, commençons par Alix Leroubeau, enfin continuons avec elle plutôt, et les modalités de l'écriture intime chez elle. Alix Leroubeau, c'est quelqu'un qui a consacré toute son œuvre à l'autobiographie quasiment. Enfin, toute son œuvre, non, une grande partie de son œuvre. On a le journal intime, on a la correspondance, ses carnets, la photographie sont pour elle autant de façons de se dire. D'un côté, on a l'écriture au long cours, le journal. Elle avait un journal intime qui a été publié au Seuil, qui est peut-être là, voilà, qui est là-bas, qui est très beau, qui permet une exploration systématique, consciente, organisée, d'elle, parfois même un peu artificielle, et de l'autre, on a les instantanés, les fragments photographiques. Mais Alix Leroubeau, elle les rapproche, elle écrit dans son journal, en disant elle, mais elle, quand elle dit elle, elle parle d'elle-même, elle prenait des photographies tous les jours, comme on imagine que tenaient les femmes victoriennes leur journal. C'est ce qu'elle écrit. Elle considère d'ailleurs que le journal est composé d'autant d'instantanés de vie et que la photographie devient une pratique diaristique. Donc, dans un journal intime, on met des instantanés de vie, comme la photographie est faite d'instantanés, et faire de la photo, c'est comme tenir un journal, c'est la même chose. Ça veut dire qu'Alix Leroubeau, elle, si on est dans les typologies de la photobiographie, elle brouille les frontières, quoi. Elle dit, elle attribue à l'image les qualités du texte et vice-versa. Elle produit donc une pensée qui est originale de ce qu'est la démarche photobiographique. Elle nous dit en gros, c'est la même chose. Je vous ai mis par exemple un extrait inédit d'une lettre qui n'a pas été publiée, qu'elle envoie à ses parents, donc qui l'irrite quand même assez souvent, qui lui demande beaucoup de nouvelles. Sa mère lui demande beaucoup de nouvelles, elle est restée au Canada, elle est assez irritée. Donc là, elle lui fait cette lettre. Lundi 11-10-1982, gymnastique, abdominaux, à 2h, François vient m'apporter les statuts de l'association à fonder. Midi, matériaux pour l'image, le décor, l'information, et repart les déposer à la préfecture. Mardi 12, gymnastique, continuer à enregistrer mon feuilleton policier, puis des proses très courtes, moins de 60 secondes. V'là du concret, du réel, de l'information. Il y a des gens que ça ennuie, mais au moins, c'est une photographie exacte de ma vie. Ça veut quand même un peu dire laissez-moi tranquille, mais c'est assez intéressant de voir, et elle le développe parfois sur un mode moins ironique, disons, que pour elle, des lettres qu'elle envoie à ses proches, dont elle est éloignée, peuvent être comme autant d'instantanés de sa vie, comme autant de photographies. Comme elle enverrait une image d'elle, elle peut envoyer une image de son quotidien. Donc, pour elle, c'est écrire comme on photographie, c'est la même chose. Deuxième façon de faire de la photobiographie, ça serait, avec quelqu'un de complètement différent, écrire depuis la photographie. Et je vais vous parler d'Annie Ernaux, qui est très importante pour cette question, à cause d'un livre, ou grâce à un livre plutôt, qu'elle a publié avec Marc Marie, qui s'appelle « L'usage de la photo ». Dans les premières pages de « L'usage de la photo », Annie Ernaux, donc vous l'avez derrière moi, hein, elle semble parvenir aux mêmes conclusions que Gilles Mora. C'est-à-dire que pour elle, la photographie appelle en effet l'écriture pour être au plus près des moments vécus, de ce que l'on veut conserver. Elle le dit, je la cite, « comme si ce que nous avions pensé jusque-là être suffisant pour garder des traces de nos moments amoureux, les photos ne l'étaient pas, qu'il faille encore quelque chose de plus, de l'écriture. » Pour elle, l'écriture, c'est donc cette chose de plus qui, aux côtés des images, permet de documenter avec justesse et force son existence, une histoire d'amour, l'histoire d'une maladie aussi, d'un cancer, dans l'usage de la photo. Texte et images sont complémentaires pour Annie Ernaux. Leur alliance vient enrichir sa démarche autobiographique. Et beaucoup seraient d'accord avec elle quand on voit la recrudescence de récits qui mêlent texte et images pour parler de soi dans le corpus photolittéraire récent. J'essaie de décrire la photo avec un double regard, l'un passé, l'autre actuel. Ce que je vois maintenant n'est pas ce que je voyais ce matin-là, quand j'ai descendu l'escalier avant le petit déjeuner, que j'étais dans le couloir d'entrée avec mon souvenir moite de la nuit. Je vous ai mis plusieurs extraits. Ce qui est assez beau aussi, c'est que là, on retrouve ce rôle un peu de révélateur de la photographie. En tout cas, la photo d'un moment vécu n'est jamais la même chose que le moment vécu. Et c'est peut-être dans leur confrontation que va naître l'écriture pour Annie Ernaux. Mais pour elle, c'est quand même, elle est écrivaine, hein, c'est avant tout le texte qui fait œuvre. La photographie, c'est toujours un point de départ, un prétexte aussi. Et cela se sent dans l'espace même du livre, hein, si je vous remets cette image, puisque les photos sont reproduites en assez mauvaise définition. Ça dit beaucoup de la façon dont elle les considère. Enfin, ce sont des documents, c'est pas très important en fait. Si on considère qu'une photographie est très importante, on la met pas en noir et blanc avec cette résolution-là. Elles ont un statut de document. Dans un autre entretien, dont je vous mets l'extrait derrière, elle explicite encore davantage ce rôle de la photographie dans le processus créateur qui est le sien. Alors, les photos jouent un rôle de déclencheur de l'écriture. Il y a dans la photo ce côté étrange du passé présent des êtres qui ne sont plus là ou ne sont plus ainsi, cette présence-absence. La photo, de plus, est muette. Ce sont ces caractéristiques qui font que j'ai envie de prendre comme point de départ ou appui de l'écriture ce que je ressens devant une photo. La photo, pour moi, est le réel. La photographie me paraît plus du côté de la mort que de la vie, ou plutôt, elle est la vie envisagée du côté de la mort, de la disparition. Mais la photo ne sauve pas, parce qu'elle est muette. Je crois qu'au contraire, elle creuse la douleur du temps qui passe. L'écriture sauve. Bon, c'est un très beau passage d'Annie Ernaux, avec un rapport extrêmement fort au texte et à l'image. Voilà, la photo ne sauve pas. On a une opposition très nette et lourde de sens entre le texte et l'image. L'image est du côté de la mort. Elle est un constat froid. On retrouve ici un écho de la chambre claire de Barthes, du fameux « ça a été » qui fait l'éthos de la photographie. L'image, c'est ce qui est passé, ce qui a une charge de mort aussi en elle. L'écriture, au contraire, est pour Annie Ernaux un art de la vie qui permet de redonner une charge de présent à chaque fois qu'un lecteur s'empare du texte. On peut imaginer qu'à chaque fois que l'un d'entre vous ouvre un livre d'Annie Ernaux, il reprend une force de présent. La photographie devient la preuve morte d'un temps révolu qu'il faut réactiver par l'écriture. Nous avons ensuite Denis Roche. On a été introduit par une belle citation de Denis Roche. Alors lui, c'est pas qu'il l'écrit depuis la photographie, hein, vous avez vu les différentes typologies. Alix Leroubeau, elle écrit comme elle photographie, c'est la même chose. Annie Ernaux, elle écrit depuis la photographie. Et Denis Roche, il photobiographie contre l'écriture. Pour lui, l'écriture cède devant l'image, puisque, je le cite, tout le reste est extraordinairement secondaire par rapport au réel de l'instantané photographique. Donc il y a l'image a une telle force pour rendre compte d'une vie que tout le reste est finalement secondaire. dans sa production personnelle d'images, Denis Roche a fait un grand nombre d'autoportraits et de portraits de sa femme que vous voyez là. Il traite de la question du temps. La femme que vous voyez, donc, c'est sa compagne, il la prend pour modèle et il tente par divers stratagèmes, par des effets de miroir et de prisme, de circonscrire l'écoulement du temps. Il y a notamment un portrait très beau de sa femme qui pose sur un muret qui est pris à plusieurs années de distance, où on voit le corps de cette femme follement aimée qui vieillit. Il y a une, je signale au passage mais qu'il y a une très très belle biographie de Denis Roche qui est sortie cette année par Jean-Marie Glaise. Ça vaut le coup si vous aimez Denis Roche. Donc derrière les vanités, la mort, il continue cette image-là. Il place son appareil dans un point d'équilibre entre entre la vie comme elle va et la photographie. Il a aussi beaucoup écrit sur ce qu'est une image. Je vous mets un extrait derrière. La première caractéristique de la photo, c'est qu'elle se produit exactement à l'endroit où se tient celui qui la prend. Ce qui m'avait fait dire un jour à Cartier-Bresson que toute photo était autobiographique. Même les miennes, m'avait-il demandé, m'y amuser, m'y agacer. Oui, Henri, même les tiennes. Pour Gilles Mora, si on revient, parce que je vois que le temps s'écoule au début de notre conférence, donc Gilles Mora qui a fait ce manifeste photobiographique en 1984, où il dit « Tout va devenir photobiographie, ça sera des épiphanies, on sera sur la crête de notre existence, c'est magnifique. » Bon, en 2003, il publie « Pour en finir avec la photobiographie ». Donc ça s'est plutôt mal passé. Il revient assez violemment sur son concept, qu'il juge assez sévèrement. Il dénonce les dérives dans l'emploi du terme, qu'il considère n'être plus qu'un vaste, je le cite, hein, qu'un vaste attrape-tout destiné à survaloriser les velléités égotistes de quelques photographes. Donc Gilles Mora n'est vraiment pas content en 2003. Il dit, en oubliant que l'autobiographie a toujours été un genre défini dans le strict champ de l'écriture, en réduisant la photobiographie à une collection d'images à caractère biographique accompagnée d'un maigre commentaire, la pratique s'est ainsi écartée de son ambition d'origine, celle-là même que notre manifeste pensait encourager à naître. Utiliser la puissance biographique de l'image, son authenticité existentielle pour la combinant au récit, donner enfin une forme esthétique neuve. Ce que trouve Gilles Mora, c'est qu'il est aussi déçu, parce qu'il trouve que c'est rare les gens qui sont bons dans les deux, quoi. Il dit que c'est rare quelqu'un qui fait des bonnes photos et qui écrit bien. Donc que ça donne un peu des productions pas terribles, quoi. C'est aussi cette déception-là. Moi, je ne crois pas. Je crois que, en tout cas, j'ai pas envie, je comprends qu'il soit peut-être irrité, mais j'ai pas envie de balayer d'un revers de main ce terme qu'il a fondé, parce qu'on a aujourd'hui, alors je parlerai de la France parce que je connais mieux, un certain nombre de photographes qui continuent à faire de la photobiographie et qui font, à mon sens, parmi les productions contemporaines les plus intéressantes. Donc pour terminer, je voudrais vous présenter quelques-uns d'entre eux. D'abord, Julien Magre. Alors, Julien Magre, je vous ai mis... il faut aller voir son site internet. Il est représenté par la galerie Le Réverbère à Lyon. Il a publié plusieurs livres chez Filigrane. Le premier livre qu'il a fait connaître, c'est Caroline, où il photographie sa femme. Et il a passé sa vie... Enfin, il passe sa vie, je ne sais pas, il a une quarantaine d'années, Julien Magre a photographié sa femme et ses enfants. Sa vie a été frappée par un deuil terrible puisqu'il a perdu sa fille quand elle avait 7 ans, l'une de ses filles, sa cadette, qui est morte d'une leucémie. Et ça aussi, il l'a documenté de manière très belle et très crue aussi en un sens. Il a notamment fait un livre avec elle qui est paru l'année dernière, il y a 2 ans, qui s'appelle « Je n'ai plus peur du noir ». Quand sa fille était à l'hôpital, ils ont fait un livre ensemble pour que le temps passe un peu plus vite pour elle. Et il a publié ce livre qui est signé de leurs 2 noms. C'est un très beau livre, très fort. Alors, je vous ai fait une capture d'écran, je suis désolée, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il accompagne toutes ses séries d'un texte introductif à caractère autobiographique où il dit souvent « je ». Donc il a cette petite fille qui est morte il y a quelques années et il est à nouveau papa depuis peu d'un petit garçon. Et ce texte est lié à ça, s'appelle « Sœur frère ». Frère, il te faudra prendre le temps, il te faudra du courage, il te faudra aimer sans attendre d'amour en retour. Frère, il te faudra aimer ta sœur, il faudra du silence pour écouter. Et je vous ai mis les bribes d'une série. Bon, ça, c'est des images qu'on peut prendre sur son site. Je vous ai aussi pris, là, je vous montre aussi une image qui était exposée dans l'exposition intitulée Elle au pluriel, qui a eu lieu en 2017 à Lyon, dans la galerie Le Réverbère, qui est une galerie assez photobiographie friendly, on pourrait dire, qui défend beaucoup d'artistes qui font de la photobiographie. Et ce qui m'intéresse là, c'est que c'était une exposition qui était constituée en grande partie de planches contact, enfin qui reprenait en tout cas des codes de la planche contact, c'est pas exactement ça, mais une suite de petites vues. Elles n'ont pas été produites par contact, mais ils jouent avec cette forme-là. Et il dit, Julien Magre, la planche contact ne sera pas seulement ce terrain vague labouré de figures esthétiques, elle conservera l'empreinte de notre passé. Et c'est-à-dire que pour lui, dans cette succession de vues, on a quelque chose qui est particulièrement à même de rendre le défilement du quotidien. Ensuite, je passe rapidement, vous irez voir, c'est pas exactement l'objet de cette conférence, et puis le temps file, mais c'est pour que vous ayez des images en tête. Amaury d'Acunha, il y a un livre, Fond de l'œil, je crois, qui est sur la table, qui est un écrivain et un photographe, je vais vous mettre une image plutôt que son nom, qui travaille à partir, lui aussi, d'un deuil. Il travaille à partir du suicide de son frère, Charles. C'est une photographie qu'il a fait de lui. Et à partir de ça, il a développé une œuvre photobiographique. Bon, ces images sont très belles à Amaury. Il écrit aussi, et il a fait une chose assez passionnante, je passe vite, il a publié ça, Une histoire souterraine, qui est un texte littéraire qui parle de photographie, qu'il a publié aux éditions du Rouergue, et toutes les photographies dont il parlait dans ce livre, il en a fait un second livre, HS, qui reprend Histoire souterraine, qu'il a publié aux éditions Filigrane. Donc là, vous avez la démarche, c'est photobiographique, mais qui est divisée en deux livres. Ensuite, une très jeune photographe qui s'appelle Clara Chichin, qui a fait des photographies d'ailleurs qui ont été faites à la Villa Perrochon, je fais une petite dédicace aux étudiants de l'ESI, avec un texte qui s'appelle Sous les yeux que quelques minutes épuisent, où elle a une pratique de l'écriture aussi. Elle fait des livres qu'elle fait elle-même, des livres d'artistes. Elle écrit des formes de textes poétiques, le vent, les larmes font peser les cernes, etc. Et elle produit ce type d'image, toujours depuis sa vie quotidienne et intime. Elle aussi, elle a un site. Enfin, la dernière dont je voudrais vous parler, c'est Pauline von Hache. En 2017, il s'est passé une chose qui m'a vraiment réjouie. Yves Dimanon et Isabelle Garon ont publié aux éditions Flammarion un livre dont je rêvais et qui manquait à ma bibliothèque. Ils ont publié une anthologie critique de la poésie en France des années 1960 à 2010, qui est une somme absolument géniale de cette histoire de la poésie qui nous manquait. Ils ont remédié à une lacune bibliographique majeure. Et donc j'ai tout de suite eu le réflexe d'aller à la fin de l'ouvrage pour voir qui était en dernier. Et c'était Pauline von Hache, qui est née en 1988, pour ce livre paru aux éditions Nous, qui sont de très bonnes éditions, qui défendent la poésie depuis longtemps, mais pas que, qui s'appelle « Nu compris ». Alors bon, c'est quand même très impressionnant, quand on est né en 1988, de clore une anthologie de cette ampleur-là et d'avoir ce livre publié chez Nous. Et c'était un moment où j'écrivais un texte sur, pour changer poésie et photographie pour Artpresse. Et bon, j'ai googlisé Pauline von Hache pour savoir qui c'était, et je suis tombée sur son Instagram. Et je vais finir là-dessus. Et je l'ai ensuite rencontrée, Pauline. Donc elle écrit de la poésie, dans un style de poésie extrêmement exigeant, qui s'inscrit dans une certaine tradition de la poésie, qu'on pourrait dire, pour rejouer des choses, une poésie, une post-poésie ou une poésie radicale. Et elle a un compte Instagram où elle s'appelle Line.ae, L-I-N-E.ae, où elle fait beaucoup d'autoportraits et de portraits d'elle et de sa compagne. Et elle utilise les possibilités d'Instagram pour accompagner. Alors je vous montre quelques images. Une capture de son compte Instagram. Vous savez, sur Instagram, quand on clique sur une image, on peut avoir un commentaire en dessous, et elle utilise ça pour écrire un court vers ou un court poème la plupart du temps. Et donc elle passe par là pour développer son œuvre photobiographique en utilisant les réseaux. Et c'est quelque chose qu'on est, on est de plus en plus nombreux à se dire que bon, il va falloir réussir à faire le tri, mais il se passe des choses sur les réseaux sociaux qui sont de plus en plus intéressantes. Et quand on s'intéresse à la photobiographie particulièrement, je pense qu'il y a chez certains artistes qui utilisent les réseaux des possibilités qui sont offertes par le format, qui est extrêmement strict, qui permettent de nouvelles inventions, tant du côté du texte que du côté de l'image. Donc la photobiographie a encore de beaux jours devant elle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je pensais à la série de Denis Roche avec sa femme. C'est le, on en parlait avec Anne-Cécile très discrètement que c'est le paysage aussi derrière qui change. En fait, elle est prise sur un muret, mais derrière, il y a un cimetière dans mes souvenirs qui évolue. Donc, elle ne vieillit pas forcément, mais le paysage, lui, se modifie. Si vous avez des questions, des remarques.
Merci. Merci pour votre exposé, très intéressant, pour des raisons que je n'expliquerai pas maintenant, mais personnellement, oui. Je trouve une remarque, c'est une continuité dans les conférences en ce lieu, puisqu'il y a 2 ans et l'année dernière, on a parlé beaucoup de l'écrivain photographe. Enfin, tout ça, c'est lié. Hein. Voilà, bon, je ne reviens pas dessus, mais ça me plaît bien, moi, ça. Bon. Alors, c'est pas vraiment des fake news dont je voulais vous parler, mais c'est un petit rapport, parce que il y a à Poitiers et dans de nombreux lieux de la Vienne une exposition, alors je voulais vous demander si c'était de la biophotographie, une personne qui a fait de la biophotographie mais qui a inventé une existence. Et, comment dire, et lorsqu'on regarde ça, on pourrait prendre au premier degré quelque chose de réel. Or, le fait d'inventer, parce que ce n'est pas seulement raconter sa propre vie ou la mettre en évidence, mais est-ce que c'est... dans ce que vous dites là, le fait de créer, d'inventer, même pour soi-même, la vie qu'on aurait pu avoir ou qu'on a rêvé, ou bien créer l'existence d'une autre personne, voire de faire du révisionnisme, hein, si on va jusqu'au bout. Donc, est-ce que tout ça, c'est aussi de la biophotographie ?
Il y a une catégorie en littérature qu'on appelle l'autofiction, qui fonctionnerait bien avec ça. On peut imaginer des choses à partir de sa propre vie, on peut un peu romancer, donc on pourrait essayer de forger ensemble un terme ce soir de l'autofiction photographico. Enfin voilà, faudrait essayer un truc plus heureux, mais oui, en tout cas, je pense que dans toute démarche autobiographique, il y a une part de fiction qui est presque nécessaire.
Merci, je prends la balle au bond, je crois qu'elle est absolument indispensable même. Vous montriez, et merci beaucoup de cet exposé, parce qu'on avait à la fois les éléments les plus importants, historiques, etc., les bases, et vous avez aussi montré des œuvres très, très contemporaines, donc il y a à la fois des découvertes et des souvenirs, donc merci beaucoup pour ça. Je rebondis sur cette question. La vidéo La pudeur ou l'impudeur d'Hervé Guibert est peut-être le plus frappant des exemples de ce type-là. Parce qu'il faut qu'il installe, Guibert, j'ai écrit là-dessus il y a longtemps, il faut qu'il installe la caméra et ensuite qu'il entre dans le champ. C'est-à-dire que pour chacun de ses gestes, en fait, tout est truqué. Il joue son propre rôle. Alors, il est réellement malade, et il va réellement mourir, mais en entrant dans le champ de la caméra, il sait qu'il joue son propre rôle. Et donc, cette distorsion de la réalité qui est liée essentiellement à la question de l'autoportrait, elle fait que tout autoportrait est une autofiction dès lors qu'on installe un cadre et qu'on se met devant, sachant qu'on se met devant. Alors Denis Roche aussi blague en parlant de contrepétrie du temps à ce sujet-là, mais c'est vrai que cette question de la fiction dans l'autobiographie, moi je serais tenter de dire, enfin je dis même clairement qu'elle est incontournable, inévitable, et que si on veut s'en sortir, ben c'est par d'autres stratégies, mais que de fait la réalité sera pas accessible. Je veux bien votre position par rapport à ça.
Moi, je suis d'accord, complètement d'accord. Je pense que la fiction est absolument nécessaire et que pour bien se dire et parfois être plus juste et plus vrai, il faut un peu passer par la fiction. Enfin, c'est-à-dire que la façon dans La pudeur ou l'impudeur, Guibert nous donne à voir sa vie, la cruauté de la maladie, passe effectivement, bah, tout ce que vous avez rappelé très justement, une mise en scène de soi où il devient son propre personnage et pourtant il nous montre quelque chose, on a accès à quelque chose qu'on n'aurait pas vu sinon. Donc. Et dans toute entreprise autobiographique, littéraire ou artistique, il y a de la fiction évidemment, même s'ils prétendent le contraire, et ça qui est... bien sûr, je suis d'accord avec ça.
Non, du coup, ça me... Parce que je... ce que tu as dit par rapport à Julien Magre, par rapport à... Enfin, quand c'est l'autre qui meurt, comment ça se passe il fait un album qui s'appelle Je n'ai plus peur du noir avec sa fille. Et comment est-ce que lui, il vient mettre de la fiction lorsque c'est l'autre qui meurt, parce que c'est...
C'est une question... Ouais, c'est un tombeau en fait. Enfin, c'est un tombeau littéraire. Je pense que c'est un livre pour sa fille.
Et c'est un livre sur sa fille, c'est de la biographie et pas de l'autobiographie. Il est très proche, mais comme le regard demeure extérieur, sans doute peut-il se revendiquer. Alors la sincérité, tous, sauf ceux qui jouent, mais en tout cas l'extériorité du témoignage à l'égard de sa fille qui entre dans le champ, mais c'est pas l'enfant qui a mis en place le chant.
Après, c'est pris dans... tu pourras aller voir sur son titre, mais dans toute son histoire, il raconte, en fait, c'est très pudique. Enfin, il est jamais dans l'exposition, on n'est jamais mal à l'aise, mais il y a un texte avec une série où il raconte très brièvement, très factuellement, la mort de sa fille et sa maladie. Et la série qui suit, c'est un été où on l'imagine dévastée, du coup il y a des paysages. Et quand on connaît un peu son travail, on sait, ce livre, on le situe nous-mêmes dans cette démarche-là. Mais le livre en lui-même, oui, est plutôt sur elle, pour elle, par elle. Enfin, c'est une façon de garder une présence, quoi, de la garder en vie.
Et puis ces petits formats là sont très intéressants aussi parce qu'ils requièrent un regard intime. Il faut s'approcher de très près des images et donc s'intéresser de très près à cette histoire qu'il raconte aussi. Ça, c'est important, cette question du format dans son cas. Là, il y a aussi dans la question de la photobiographie, il y a aussi l'idée du format, dans quel format on se raconte. Et là, on voit chez Julien Magre que le choix colle avec l'intimité dont il veut parler, quoi.
Oui, et à la fois et l'usage d'un site qui est presque comme un blog, tous les formats du livre aussi, comment les livres sont pensés. Pour ceux qui s'intéressent au design graphique, par exemple, comment les livres changent la mise en page, les formats, effectivement, en fonction du sujet, c'est assez passionnant. Il faut regarder ce travail-là, ceux qui s'intéressent à ces questions.
Bon, j'ai une question, j'ai pas suffisamment lu Le Jeune, mais je me demande si c'est pas une pure théorie ou vue de l'esprit que d'évoquer la vérité dans le pacte autobiographique. Là, la démonstration, c'est quand même que la fiction est... en tout cas, apparaît dans tout, et avec la vérité, il me semble, est compliquée.
Dans le pacte autobiographique, il est surtout question de sincérité. Le pacte est dans le fait que l'auteur qui donne son nom au narrateur, qui va donc parler à la première personne, s'engage à... Ouais, mais le...
Peut-être que je me suis mal exprimée, parce que c'est vrai qu'il y a deux choses. C'est la coïncidence de j'écris et je sais celui dont on parle, et je m'engage. Il y a des choses très... On a plein Rousseau et tout ça, à dire la vérité, quoi. C'est plutôt quelque chose qui est énoncé au début. Mais, ouais, vérité, non, peut-être c'était un autre... Ou alors je me suis mal exprimée, ou alors c'était dans la reprise de ça, mais non, c'est pas ce qui est dit par le jeune sur le pacte autobiographique.
Merci pour votre exposé. Moi, je pensais, et c'est assez loin de ce que vous avez montré, je pensais à l'usage de la photographie à l'intérieur du texte littéraire, et notamment chez quelqu'un comme Sebald, par exemple, où l'image photographique a un statut très particulier et qui est quand même dans une démarche de type autobiographique, puisque Sebald conduit ses récits à la première personne. Voilà.
Mais il dit que c'est des romans, quoi. C'est là, la... Mais oui, Sebald, il faudrait. Enfin, c'est merveilleux l'usage de la photographie par Sebald. Il faudrait un cycle de conférences sur lui. Mais lui, il dit que ce sont des romans. Donc c'est. Moi, j'ai vraiment là pour cet exposé choisi des auteurs qui revendiquent cette chose. Vraiment, c'est de l'autobiographie ou c'est de la photobiographie. Oui, il y aurait plein de choses à dire sur Sebald. Comment les images surgissent dans les textes.
Quelle conception vous pensez, à laquelle vous êtes plus sensible, vous pensez la plus juste de la photobiographie, celle de Sophie Kahl, de Alix Léo-Roubaud ou de Denis Roche?
J'ai pas tranché.
Vous n'avez pas tranché?
Non, j'ai pas tranché.
Bien. Merci beaucoup Hélène Giannichini. Et maintenant, je vous propose d'avoir un petit temps de consultation des livres si vous avez envie. Et...
Simplement pour annoncer que nous nous retrouvons le 12 mars pour entendre Simone Jamy. Qui viendra parler de la photographie africaine, si cette notion est maintenue, en tout cas de photographes africains. À bientôt.